Bonjour à toutes et à tous. Que la grâce et la paix de notre Dieu et de Jésus-Christ soient sur nous. Je vais commencer à vous poser une question. Qu'est-ce qu'il nous dit les derniers versets de la Bible? Apocalypse 22, versets 20 et 21. Oui, pas seulement Amen. Oui, je reviens bientôt. Et l'assemblée qu'il dit, Maranatha, Seigneur. Maranatha, Seigneur. Oui, viens bientôt. Oui, viens bientôt. C'est ça notre espérance. Alors, une autre question. Pourquoi est-ce que le Seigneur, il revient-il? Beaucoup, ils disent, oui, il vient me chercher. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas la seule chose, ce n'est pas la chose la plus importante. Il vient pour instaurer son royaume. C'est ça qui est très important. Car vous savez, la première venue, on ne la discute pas. Tout le monde, il sait que Jésus est venu, hein. D'ailleurs, sa venue, la première venue, elle a marqué le temps. Hein. On est en 2019, après Jésus-Christ. Et même ceux qui ne croient pas, ils répètent cela, n'est-ce pas? Ça a été quelque chose de... Mais par rapport à sa venue, voilà, beaucoup ont dit, ah, je ne sais pas. Et pourtant, on a la parole de Dieu. Hein. La parole de Dieu, il nous dit tout. La Bible, c'est elle qui nous révèle toutes les choses qui doivent arriver lorsque le Seigneur Jésus va revenir. Premièrement, il y a deux choses qu'il faut avoir bien dans notre tête. Que le Seigneur Jésus, premièrement, il va venir pour prendre son Église. Tous ceux qui lui ont fait confiance. Mais il ne descend pas ici sur terre. Il reste... dans les airs. Personne ne va le voir, sauf ceux qui lui appartiennent. Et la deuxième fois, il va revenir, alors c'est là qu'il va se manifester à l'humanité, pour faire quoi? Pour instaurer son royaume. À beaucoup de chrétiens, ils ne savent rien de ce royaume. Pourtant, la Bible, il ne fait parler de cela. Mais pour cela, il faut étudier la parole. Il faut lire la Bible. Et pas faire comme... Il y a une petite histoire, je vais vous dire, pour vous faire comprendre. Dans le catéchisme, il y avait... Vous savez qu'on fait la première communion. Et alors, il y a un temps de catéchèse, d'enseignement. Alors, le prêtre, il a les enfants tout autour, et il y a quelqu'un qui est là juste de quelques fois, il est venu. Alors, il a dit, parle, pourquoi est-ce que Jésus il est venu ici-bas sur la terre, et pourquoi est-il mort? Le petit, il dit, tout étonné, je ne savais même pas qu'il était malade. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le prêtre? Il a parlé aux parents. Il a dit, je ne peux pas lui faire faire la première communion. Il ne sait pas qui est Jésus-Christ. Il ne sait pas pourquoi il est mort. Comment voulez-vous que je puisse lui faire faire la première communion? Alors, la mère, elle dit, oui, excusez-nous, mais on n'a pas d'argent pour acheter les journaux. Voilà. Dieu, il nous a donné sa parole. Et c'est en cela que nous devons l'étudier. Car Dieu, il nous révèle tout. Ce n'est pas un Dieu de mystère. Dieu, il nous révèle du commencement jusqu'à la fin ce qui va arriver, pas seulement au monde, mais ce qui va arriver pour chacun de ceux qui ont accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, et aussi à ceux qui ne lui ont pas fait confiance. Et tout ça, c'est dans la parole. Et ce matin, j'aimerais que dans la parole, on puisse voir ensemble qu'est-ce qui va arriver lorsque Jésus-Christ, il va revenir. Je vous l'ai dit la première fois, il va revenir pour prendre son Église, nous qui lui avons fait confiance. Mais il y a le deuxième avènement. La première fois, il est venu ici dans l'humilité. Mais la deuxième fois, il va venir dans la puissance. La première fois, il est venu en tant que sauveur. La deuxième fois, il va revenir en tant que juge. Alors, c'est à chacun de nous de se demander, comment est-ce que je veux recevoir Jésus-Christ ? En tant que sauveur ou en tant que juge ? Et je vous invite à ouvrir, alors, c'est le royaume. Comment est-ce qu'on sait qu'il doit instaurer le royaume? Ouvrez la Bible dans Daniel, l'épître de Daniel, le livre de Daniel. Chapitre 2, verset 31. Voilà, c'est par la suite au rêve que le roi Nabucodonosor, il avait fait. Il avait rêvé d'une statue. Et alors, il a réuni tous les sages et il a dit, je veux que vous m'expliquiez la signification de ce rêve, parce que ce rêve, il m'a accablé. Mais la seule chose, c'est que les sages, il ne leur a pas dit, voilà, j'ai rêvé ça et ça et ça et ça et ça. Mais il leur a dit, voilà, expliquez-moi le sang, mais racontez-moi aussi le songe, le rêve. Voilà, et c'est là qu'il a pris. Il raconte cela à Daniel. Et Daniel qui répond. Sans que le roi il lui a dit qu'est-ce qu'il a rêvé. Hein? Pourquoi? Parce que Daniel, comme il était un sage, il a dit, au roi, je veux prier. Je vais me tourner vers celui qui révèle toutes choses et je vais t'expliquer ton rêve. Mais le roi, il lui a rien dit. Daniel, il a prié et nous savons que lorsqu'on se tourne vers Dieu, il fait quoi Dieu? Il nous écoute. Il répond à la prière fervente de ses enfants. Et voilà ce qu'il lui dit Daniel. Il dit au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main. Il frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors les rois, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, ils furent brisés ensemble. Et ils devirent comme de la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne est remplie toute la terre. Regardez le 44, verset 44. Dans le temps de ces rois, de ces statues, on ne va pas rentrer dans les statues parce que ça va être trop long, hein? Mais chaque partie de la statue représente un royaume, à commencer du royaume de Babylone. Babylone, Mèdes et Perses, Grecs, Romains. C'est ça, tous les royaumes, c'est ça, hein, jusqu'à Rome. Et voilà 44. Dans le temps de ces rois, les dieux des cieux, il suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous les royaumes et lui-même subsistera éternellement comme royaume. C'est le royaume de Jésus-Christ, celui qui va instaurer lorsqu'il va revenir. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé les fers, le rein, l'argile, d'argent et d'or qui représentent les royaumes. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Ce royaume, c'est celui que Jésus-Christ, il va venir ici-bas instaurer. On appelle ça le millénium. Ça a commencé, Jésus, il est venu ici pour instaurer la paix. Mais les hommes n'en ont pas voulu. Et alors, il va revenir une deuxième fois, et lui qui est le prince de la paix, il va instaurer ce royaume. Et sera un royaume éternel, qui ne sera jamais détruit. Pourquoi ? Parce que c'est Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui va être assis sur ce trône. Voilà pourquoi on va voir un verset qui confirme toutes ces choses-là dans le livre de Zacharie. Et on va voir comment ça va se faire ce retour de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il va se vérifier ce retour? Tout nous est dit. Et pour cela, ouvrez le livre de Zacharie, chapitre 14. À partir du verset 4, et on terminera avec le verset 9. 4, 5 et 9. Voilà ce qu'il nous dit. Zacharie, hein, c'est un prophète du peuple d'Israël. Il prophétisait par rapport au retour de ce Messie. Il dit, « Et ses pieds se tiendront debout en ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, à l'est. Et le mont des Oliviers s'effondrera par le milieu, vers l'est et vers l'ouest. » Et il y aura une très grande vallée, et la moitié de la montagne se retirera vers le nord, et l'autre moitié vers le sud. Et vous fuirez par la vallée de montagne, car la vallée de montagne atteindra jusqu'à Tsal. Oui, vous fuirez comme vous avez fui devant les tremblements de terre au jour d'Ozias, le roi de Juda. Alors, le Seigneur mon Dieu viendra. Et tous les saints avec toi. Et le Seigneur, verset 9, et le Seigneur sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, il y aura un Seigneur et son nom sera un seul, le Messie Jésus-Christ. Ça, c'est le retour pour instaurer le royaume. Et de ces trois versets, j'ai partagé ce verset en trois parties qui va nous expliquer la façon, comment les choses vont se vérifier. Trois passages. Premièrement, il nous est dit dans Zacharie, au verset, il nous est dit qu'il reviendra sur le mont des Oliviers. Chapitre 14, vous y êtes toujours dans Zacharie. Zacharie. 14. Ce chapitre-là, pourquoi j'ai commencé par là? Parce que c'est un chapitre qui fait dérouler tout ce qui va se passer lorsque le Seigneur Jésus il va venir ici-bas. Premièrement, on voit qu'il va revenir sur le mont des Oliviers. il va mettre les pieds sur le mont des Oliviers. Qu'est-ce qu'il va se passer? Au verset 1, regardez. Voici les jours de l'Éternel arrivent, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, la maison sera pillée et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Ça, il nous montre que la première partie, c'est que toutes les nations, ils vont se réunir pour détruire Jérusalem. Vous savez qui c'est Jérusalem? C'est la ville du roi, c'est la ville du Messie. Ils vont tous se réunir pour la détruire. La deuxième chose qu'on peut voir au verset 3, toutes les nations ils seront là, mais au verset 3, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. L'Éternel, il va combattre. Oui, le Messie Jésus-Christ, en revenant ici-bas, il va venir pour détruire toutes ces nations qui veulent l'anéantissement de Jérusalem, d'Israël. Et ainsi, il pourra instaurer le royaume. La troisième chose, regardez ce qu'il nous dit, hein, au verset 4 à 8. Ses pieds, ils se poseront en ce jour sous la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem et du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers s'effondrera par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le Septentrion, et une moitié vers le Midi. Vous fuirez alors dans la vallée des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Tsel, vous fuirez comme vous avez fui devant les tremblements de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous les saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. C'est la venue de Jésus-Christ. Toutes les nations, ils sont là. L'Éternel, il va combattre. Et Jésus, il va arriver. Toutes les promesses de Dieu, ils sont là. Ils vont se réaliser. Nous avons devant nous ce qui va se passer dans le futur. On n'a pas besoin d'être des médiums ou je ne sais pas quoi, de raconter des choses ou des prophètes. Dieu, il nous révèle tout ça. La seule chose qu'il nous demande, c'est d'y croire. Et au verset 9, il continue, voilà. L'Éternel, il sera roi de toute la terre. Toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Et son nom sera le seul nom. Tous les pays deviendront comme la plaine du Geba à Rimmon. Au midi de Jérusalem, Jérusalem sera élevée et restera à sa place, depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des anges, et depuis les tours d'Ananaël jusqu'au pressoir du roi. On oubliera, on habitera dans son sein, et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Pourquoi? Parce que le roi est là. Est-ce que Jérusalem aujourd'hui, elle est en paix? Et non, il n'est pas en paix. Mais à ce moment-là, lorsque Jésus il va instaurer ce royaume, Jérusalem il sera à l'abri. Voilà pourquoi ce verset il nous le dit clairement, que le Seigneur Jésus il va poser ses pieds sur cette montagne des Oliviers et il va combattre ces nations. Il va détruire tous ceux qui se mettent contre lui. Et il va instaurer ce royaume. Car le royaume, c'est une promesse. Vous regardez dans le livre des Actes, qu'est-ce que c'est que les apôtres ils prêchaient? Le royaume. Jésus, qu'est-ce qu'il prêchait? Le royaume. Jean-Baptiste, c'est le royaume qu'il prêchait. Jésus, il est venu, qu'est-ce qu'il prêche? Le royaume. Parce qu'il est venu pour cela. Voilà pourquoi c'est très important de connaître ces choses-là. Et il nous a dit, ses pieds se tiendront debout en ce jour-là sur le mont des Oliviers, au verset 4. C'est quoi ce mont des Oliviers? C'est là que Jésus il s'est réuni avant de monter à la croix. C'est là qu'il a commencé à souffrir, pas corporellement, mais intimement, spirituellement, jusqu'au point que sa sueur, c'était du sang. Mais ses disciples faisaient quoi? Ils dormaient. Comme il a dit les frères, quel est le message qu'il nous a donné? Réveillez-vous! Jésus, il était là en train de prier parce qu'il savait ce qu'il allait lui arriver. Et les apôtres faisaient quoi? Ils dormaient. Mais on a cette grâce que notre Dieu, il ne dort pas. Notre Dieu, il ne sommeille pas. Il est toujours en éveil et il désire que ses enfants, ils soient en éveil. Ce mont des Oliviers, c'est le même mont d'où il est parti. Vous en souvenez dans Actes chapitre 1, verset 9, lorsque le Seigneur, il a été élevé, lorsqu'il est retourné chez lui. Et ils étaient là, le Seigneur est parti, il regardait. Alors un ange, il a dit, mais qu'est-ce que vous regardez? Mais il a dit, ben, on regarde le Seigneur. Il a dit, ce même Seigneur qui est parti un jour, il reviendra. C'est là. Et il nous a dit, il confirme cela, qu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. C'est ça, que quelque chose de très important à savoir. Hein? Et il nous a dit aussi que lorsque les pieds du Seigneur Jésus, ils vont se poser sur cette montagne, là aussi, il faut croire ce que la parole de Dieu nous dit. Et pas se dire, c'est pas possible ça. Il nous a dit que cette montagne, il va s'ouvrir. La topographie, il va changer. Pourquoi? Parce que le roi, il est là. Parce que Dieu, il est là. Il va se fendre en deux là et il va y avoir une grande vallée. Qu'est-ce qu'il va arriver dans cette vallée? On va la voir tout à l'heure. Que toutes les nations y seront réunies là. Et il va y avoir les jugements. Pourquoi? Parce que Jésus, il est venu, il va venir en tant que juge. Il va juger tous ceux qui ne lui ont fait pas confiance. Et ça, c'est quelque chose, il reviendra pour instaurer ce royaume. Beaucoup ne croient pas dans ce royaume, dans ce millénium. Et pourtant, la Bible, elle est claire. Elle est claire. Il nous a dit, il va régner pendant 1000 ans. On vivra dans la paix. Lorsqu'il est venu au monde, les anges, ils ont dit, c'est lui qui va apporter la paix. Pourquoi la paix, il n'est pas là? Parce qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus. Mais lorsqu'il va revenir, il va venir dans la puissance, dans Matthieu 24. Lorsque le Fils de l'homme, il viendra dans la puissance, alors là, tous ils vont se plier. Tous ils vont se plier. C'est ça une vérité. Le Seigneur, il nous révèle les choses. Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses plans et ses desseins à ses serviteurs. Est-ce que vous êtes des serviteurs? Est-ce que nous sommes des serviteurs? Si on dit oui, lisons la Bible parce que Dieu, il nous révèle ce qu'il veut faire. C'est ça ce qu'il faut avoir au plus profond de nous-mêmes. La seconde pensée de ce verset qu'on a lu, hein, il nous est dit que « Alors le Seigneur mon Dieu viendra et tous les saints avec lui. » Qui sont les saints? C'est nous. C'est tous ceux qui ont accompli la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'avènement du Seigneur Jésus, il se fera en deux étapes. Première étape, il va s'arrêter dans les airs et il va attirer à lui, son Église, tous ceux qui ont accompli sa volonté. Il va les attirer et il va les ramener où? Mais dans notre maison. Notre maison, elle n'est pas ici, hein. Ici, nous sommes des passages. Notre maison, c'est là-haut. Et Jésus, il nous a fait cette promesse. Il a dit, lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et ici, pourquoi je vous ai dit que c'est en deux étapes? Ici, il nous dit qu'il reviendra avec ses saints. Il revient d'où? Du ciel. Donc, si nous, nous revenons avec lui, ça veut dire quoi? qu'on a été déjà enlevé. C'est clair et c'est net, n'est-ce pas? On ne peut pas revenir si on n'a pas été. Il nous prend avec lui, et lorsque les choses, lorsque le temps de Dieu il est arrivé, on va revenir avec le Seigneur. Et il nous a dit, il reviendra avec tous les saints. Nous, l'Église, et tous les autres saints de l'Ancien Testament, tous ceux qui ont accompli la volonté de Dieu, ils reviendront ici-bas pour combattre toutes ces choses-là. Mais c'est ce qu'il y a de bien ici. C'est qu'il nous a dit, nous sommes venus dans l'armée de Dieu, de Jésus-Christ, avec ses saints. Mais il y a la différence que nous sommes venus pour combattre, mais nous n'allons pas combattre. Pourquoi nous n'allons pas combattre? Parce que c'est Dieu qui combat pour nous. Il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas de perte. Pourquoi? Parce que Dieu, il va agir, lui. Il va détruire toutes ces nations-là. Nous serons avec lui pour manifester sa gloire. D'ailleurs, aujourd'hui, dans notre propre vie, de quelle victoire nous pouvons nous réjouir? De notre victoire? Non, c'est de la victoire de Jésus-Christ. Nous sommes des vainqueurs parce que Jésus a combattu, parce que Jésus a vaincu. Et là, c'est exactement pareil. Et le Seigneur, il a parlé de ça, Apocalypse 19, 14. Il dit, et les armées qui étaient dans le ciel l'ont suivi. Nous étions dans le ciel avec le Seigneur. Hein? Les armées du ciel qui accompagneront Christ dans son événement seront composées de saints et des anges, tous ensemble. Pourquoi? Parce que nous sommes des vainqueurs avec Jésus-Christ. Et ce royaume, il doit être instauré. C'est des prophéties qui ont été faites depuis les commencements. Dieu, il a établi toutes choses. Il n'y a pas de hasard dans notre vie, sachons-le, il faut le savoir. Hein. Dieu a prédisposé toutes choses. Lorsqu'Adam et Ève ils ont péché, croyez-vous que Dieu il a dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Tout était déjà prêt là. D'ailleurs, Genèse 3,15, c'est la prédiction d'un sauveur qui allait venir. Hein? De la femme, il sortira une dynastie qui écrasera la tête du serpent. Tout était... voilà. Et même nous qui vous êtes ici et qui vous êtes chrétiens, qui nous sommes chrétiens, dans Éphésiens, il nous a dit, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle avant la fondation du monde. Vous vous imaginez ça? Si vous dites ça à des gens qui ne croient pas, qui ne connaissent pas la Bible, ils vont nous rire au nez. Mais nous, nous croyons en Dieu. Et nous faisons confiance en Dieu. Avant que nous venions au monde, avant le commencement de toutes choses, Dieu, il me voyait. Marlène, il te voyait, Dieu. Voilà pourquoi il t'a élu. Il t'a élu. Mais pas parce que tu as fait quelque chose des biens ou des spéciales. Tu as fait juste une chose, c'est lorsqu'on t'a parlé de Jésus-Christ, tu as dit, oui, je crois qu'il est Dieu. Je crois qu'il a donné sa vie pour moi. Je crois qu'un jour il va revenir et je veux être ton enfant. Dieu a vu cette chose-là. Dieu a vu ce moment-là. Voilà pourquoi il nous a élus avant la fondation. C'est quelque chose d'incroyable, n'est-ce pas? Mais c'est ça que Dieu nous dit. Vous savez que Dieu, il est omniscient. Vous savez ce que ça veut dire, omniscient? Qui sait tout? Le passé, le présent, le futur. Il connaît tout. Lui, il voit tout au présent. Vous vous souvenez, Moïse, ce qu'il avait dit. Mais si le peuple me demande ton nom, qu'est-ce que je veux lui dire? Tu leur diras, je suis celui qui est. Le présent, c'est ça. Vous regardez dans la Bible, c'est pas marqué demain, après-demain, ou dans un mois, ou dans deux mois. Non, c'est marqué aujourd'hui. N'étais-je pas dit que si tu crois, là, en ce moment, aujourd'hui, pas demain? Voilà pourquoi dans notre jeunesse, des gens ils se disent « Ah, je suis jeune, j'ai 18 ans, j'ai en pleine santé, j'ai encore tout mon temps de l'accepter. » Qu'est-ce qu'on vous en savez? Qu'est-ce qu'on en sait? Jacques nous dit que nous sommes comme une vapeur. Un coup de vent et les nuages, ils s'en vont. On peut être en pleine forme, on se couche et demain matin, on ne se réveille pas. Mince, j'étais en bonne santé, hein? C'est Dieu qui commande toutes choses, qui dirige toutes choses. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être prêt. C'est ça que Dieu nous demande. C'est d'être prêt. Et c'est à cela que nous devons être prêts. À savoir que Jésus-Christ, à un moment, il peut venir, même maintenant. La question est, sommes-nous prêts? Si le Seigneur, il vient maintenant, est-ce que je peux me présenter devant lui? C'est ça. C'est ça, là, s'il compte le plus. Et le troisième point, il nous est dit, et le Seigneur sera roi sur toute la terre en ces jours-là. Il y aura un Seigneur, et son nom, il sera un seul. Troisième point, c'est que Christ, le Messie, Jésus-Christ, il va venir pour instaurer son royaume. C'est Dieu qui affirme cela. Comment alors j'ose dire que ces choses ne vont pas se réaliser? Qui suis-je, moi, pour contredire l'homme, pour contredire Dieu? Paul, il nous le répète, hein? Qui es-tu, homme, pour juger Dieu? Ah, c'est pas juste, c'est pas juste. Qui es-tu, homme, pour juger Dieu? Lui, il peut le faire, parce qu'il est Dieu. Mais il va venir pour instaurer ce royaume. Oui, Christ sera le roi sur toute la terre. Et nous a dit que ceux qui lui ont fait confiance, ils régneront avec lui. Sur quoi, sur qui? Ça, il ne nous l'a pas dit. Mais lorsque Dieu dit que nous régnerons, nous régnerons. Je vous l'ai dit toujours, peut-être dans cette vie, on passe des moments très difficiles. On arrive à moitié du mois, on n'a pas d'argent, on souffre. Hein. Sachons qu'une chose, que nous allons régner. On a là-haut un héritage. Et personne ne nous a dit, il va nous le voler. La place, elle est réservée. Nous serons les co-héritiers de Jésus-Christ, il nous a dit. Qui c'est Jésus-Christ? Jésus-Christ est Dieu et nous serons les co-héritiers de Dieu. Si seulement nous puissions penser à ces choses-là, notre vie, il serait droite. Et en sachant aussi que le Seigneur Jésus, il peut venir à n'importe quel moment. Alors là, avant de faire une bêtise, on réfléchirait tout de suite. Il y a ces beaux livres-là. Que ferait Jésus à ma place? Avant d'aller quelque part, il faut toujours se poser la question, si j'étais avec Jésus, est-ce que Jésus me suivrait à cet endroit? Et pas dire, mais non, il ne se passe rien, il n'y a rien. Toujours se poser cette question. Est-ce que Jésus, il viendrait avec moi? Parce que le Seigneur, il veut que ses enfants, ils mènent une vie de sainteté. Soyez saints comme votre Père est saint. Mais ce royaume, il va se réaliser ici-bas. Et ça va durer 1000 ans. Et les livres de l'Apocalypse nous le confirment. Chapitre 20, versets 4 et 6. Il dit, « Et je vis des trônes ». Il n'a pas dit qu'il voit un trône, mais il a dit, « Et je vis des trônes, et ceux qui étaient assis dessus, et les jugements leur furent donnés. » Voilà. Nous allons juger. Vous vous en souvenez, Paul, aux Corinthiens, il y avait dans l'église des frères qui avaient des litiges au lieu de régler ses litiges, il faisait quoi? Il portait plainte contre eux chez les... à l'État. Voilà, je porte plainte contre Marlène, au lieu de régler. Et Paul, il dit, mais ne savez-vous pas que vous allez juger les anges? Et pour juger un frère, pour juger une sœur, vous vous tournez vers des incirconcis, des gens qui ne sont pas croyants. C'est ce qu'il nous dit. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Ici, il parle de cette période appelée la grande tribulation. L'Église ne sera pas là parce que l'Église elle a déjà été enlevée. Il y aura cet homme, l'Antichrist, qui va persécuter, qui va tuer tous ceux qui n'accomplissent pas sa volonté, hein, qui n'ont pas adoré et qui ont rendu un témoignage à la parole, qu'ils ont été fidèles à Dieu. Ils ont été tués. Mais il nous est dit que ces gens qui sont tués, où est-ce qu'ils sont? Ils sont autour du trône de Dieu. Parce que lorsqu'un chrétien meurt, il va au ciel, il va auprès de son Père. Il rentre dans sa maison. Et automatiquement, ils étaient là. Il dit qu'ils n'avaient pas adoré la bête ni son image, qu'ils n'avaient pas reçu sa marque sur les fronts ou dans leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. 1000 ans. Et il nous a encore ajouté dans un autre endroit qu'ils se sont tournés vers Dieu. Dieu assis sur les trônes. Ils se sont tournés. Il a dit, mais jusqu'à quand, Seigneur, tu vas permettre ça? Que tes enfants, ils soient tués, ils soient martyrisés. Jusqu'à quand, Seigneur? Interviens. Et Dieu, il répond, encore un peu de temps. Voilà pourquoi je vous disais, il n'y a pas de hasard. Il y a le temps de Dieu. Encore un peu de temps. Et c'est la même chose qu'on fait aujourd'hui, n'est-ce pas? Dans ce monde. On voit des gens qui maltraitent les chrétiens, qui les tuent, qui n'ont aucun regard pour Dieu. Et pourtant qu'ils ont une belle vie. Asaph, il nous le dit dans un de ses psaumes. Il a dit, regarde Seigneur, ceux qui ne croient pas en toi, qui ne font pas ta volonté, ils ont une belle vie. Et Dieu il leur répond, il a dit, ils auront leur rétribution. Ils auront la belle vie ici, mais une fois qu'ils passent à l'autre côté, ils auront leur jugement. Et nous savons quelle vie nous attend pour nous. Et il nous a dit, mais le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que le 1000 ans soit accompli. Le reste des morts, c'est ceux qui n'ont pas fait la volonté de Dieu. Ils ne sont pas ressuscités. C'est la première résurrection. Heureux et saint est celui qui a part à la première résurrection. Si je vous dis quelle est la première résurrection? Hein? La première résurrection. Là, lorsque Jésus va venir prendre son Église, c'est la résurrection du corps. Ça, c'est la première résurrection. Parce que nous sommes déjà auprès du Seigneur. Mais c'est la résurrection du corps. Les autres qui ne connaissent pas Jésus, ils ne sont pas ressuscités. Mais ils vont être ressuscités après les 1000 ans. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir le grand trône blanc. Vous me direz, mais qu'est-ce que tu me racontes? Pas moi, ceux qui vous racontent la Bible. Faisons confiance en Dieu. Et ce retour, il est parlé clairement de cela. Et encore une fois, toutes ces choses-là, nous les avons par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose, mais parce que lui, il a tout fait. Qui c'est celui? C'est Jésus, c'est le Messie. Et c'est à cela que Dieu nous appelle à vivre. En attendant ce jour glorieux, nous allons revenir avec lui. et nous serons assis sur des trônes pour gouverner, pour régner avec notre époux. Voilà ce que Dieu nous révèle dans sa parole. Et toutes ces choses-là, nous devons les connaître. Car Dieu, il nous les révèle. C'est un peu comme dans notre famille, notre père ou notre mère, il nous dit quelque chose, il parle aux enfants, voilà, c'est comme ça et c'est comme ça. Et les enfants, ils n'écoutent même pas. Nous devons avoir au plus profond de nous-mêmes les enseignements. Voilà pourquoi c'est très important cela. Et il nous a dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est cette grâce que nous devons. Et je vais terminer avec ce cantique-là. C'est grâce étonnante. En anglais, c'est, excusez-moi mon accent, hein, Amazing Grace. Hein, qu'il est connu partout. Hein, voilà ce qu'il dit, ce cantique. Il dit, grâce étonnante. Combien est douce la voix qui a sauvé un misérable comme moi. Un misérable comme moi. Qui es-tu, toi? Ah, je suis quelqu'un de bien, moi. J'ai un bon cœur. Tu es un misérable. Tu ne mérites rien. C'est la grâce de Dieu qui nous fait toutes ces choses-là. Avant, j'étais perdu, mais maintenant, j'ai été trouvé. Il n'est pas dit que j'ai trouvé. Non, j'ai été trouvé. C'est comme dans l'Évangile, hein? Qui est celui qui t'a sauvé? Celui qui t'a ouvert les yeux? Ils ont demandé à propos de Jésus pour savoir qui c'est. Il a dit, je ne sais pas qui c'est. Mais je sais une chose, qu'avant j'étais aveugle et maintenant je vois. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Avant j'étais perdu, mais maintenant j'ai été trouvé. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous cherche. Nous ne faisons aucun effort. C'est Dieu qui vient nous chercher. Si Dieu ne vient pas nous chercher, nous n'irions jamais à lui. Parce que notre cœur est mauvais. Et il continue. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. C'est la grâce qui enseigne mon cœur à craindre. C'est parce que j'ai la grâce de Dieu que je crains Dieu. Et grâce à mes craintes, Dieu il les a enlevées. Combien précieuse cette grâce m'apparaît. L'heure où j'ai premièrement cru. Avez-vous goûté cette grâce de Jésus-Christ? Si vous ne l'avez pas fait, la porte est toujours ouverte. L'aujourd'hui de Dieu, il est toujours là. Alors, tournez-vous vers lui, car comme il est dit dans Apocalypse 22, je vais revenir bientôt. Serez-vous prêts à le recevoir? Amen.